Bon, si on s'arrête 2 secondes et qu'on imagine détenir le pouvoir absolu sur l'univers tout entier, le vrai pouvoir, genre le bouton nucléaire cosmique.
La richesse infinie, l'immortalité, le fantasme ultime, quoi.
C'est ça, le contrôle total sur chaque atome. L'instinct humain, et honnêtement, ça a été forgé par des millénaires d'histoire, dicte une seule et unique règle face à un tel pouvoir. On s'en sert pour dominer.
Ouais, on accumule les privilèges, on écrase la concurrence.
Exactement. Et une fois arrivé tout en haut de la pyramide, ben on verrouille la porte pour se protéger et imposer sa propre volonté. C'est le modèle classique, presque biologique en fait, de l'ambition humaine.
Tout à fait. Et cette dynamique, c'est vraiment le moteur de presque tous les empires de l'histoire, même des hiérarchies d'entreprises modernes ou de la psychologie de base.
C'est clair.
La trajectoire naturelle de toute entité, c'est de grimper, s'élever au-dessus des autres pour sécuriser sa position. L'idée même d'abandonner volontairement un sommet durement acquis, ça semble complètement irrationnel.
Mais et c'est là que ça devient fascinant. Que se passe-t-il si un texte antique, un truc vieux de 2000 ans, prend cette pyramide du pouvoir et la retourne complètement à l'envers?
Ah, la fameuse inversion.
Ouais, un texte qui affirme que la véritable domination, bah, ça ressemble en fait à une soumission totale. Notre exploration d'aujourd'hui plonge au cœur de ce qui est sans doute l'un des textes les plus subversifs jamais écrits sur la nature du pouvoir.
Une plongée très attendue d'ailleurs.
Oui. On se base sur les recherches, les analyses et les conférences du docteur Matthew S. Harmon concernant une lettre bien spécifique, l'Épître aux Philippiens.
Le chapitre 2, versets 5 à 11, pour être précis.
Voilà, c'est un passage que les historiens surnomment souvent l'hymne au Christ. Et la mission de notre plongée détaillée d'aujourd'hui, c'est de montrer que ce texte, c'est pas juste une relique poussiéreuse de théologie pour les érudits.
Non, loin de là. C'est un modèle littéralement révolutionnaire. Le docteur Harmon l'appelle d'ailleurs l'exemplaire.
L'exemplaire, ouais. C'est un mécanisme conçu pour déconstruire notre conception même du succès en utilisant l'union avec le Christ pour s'autonomiser, plutôt que de simplement limiter bêtement. Bon, décortiquons ça parce que ce passage précis, même s'il est court, il est d'une densité historique incroyable.
Absolument. Et la densité de ce passage exige en effet de le replacer dans son écosystème d'origine. Avant de comprendre ce que le Christ a fait, il faut comprendre le monde dans lequel ces mots ont atterri.
Donc on est vers quelle époque là?
Paul rédige cette lettre et y insère ce fameux hymne autour de l'an 60 à 62 après Jésus-Christ.
Ok, donc vraiment très tôt.
Très tôt, oui. Les chercheurs débattent encore pour savoir si c'était un chant liturgique que les premiers chrétiens chantaient déjà, ou bien une prose poétique très élevée composée par Paul lui-même.
Mais au final, peu importe la source exacte, non?
En fait, la clé réside dans la façon dont Paul l'utilise. Il cite ce texte majestueux sans s'attendre à la moindre résistance de la part de ses lecteurs.
Et ça, pour quiconque étudie l'histoire, ce détail chronologique, ça change toute la donne.
Totalement.
Parce que si Paul l'écrit au début des années 60 et que tout le monde dit « oui, amen », ça pulvérise une théorie académique hyper populaire.
Celle de l'évolution tardive.
Exactement. Pendant longtemps, certains universitaires affirmaient que les premiers chrétiens voyaient Jésus juste comme un bon enseignant, un prophète sympa, et que cette idée de divinité absolue aurait été inventée vers la fin du 1er siècle.
Pour institutionnaliser le pouvoir de l'Église, oui. Mais les dates contredisent formellement cette théorie. Le simple fait que cet hymne aux Philippiens circule de manière pacifique à peine 30 ans après la mort du Christ, ça prouve que la croyance en sa divinité était déjà le socle du mouvement primitif.
Donc l'idée n'a pas mis un siècle à germer.
Pas du tout, elle était présente dès les premiers jours.
Plongeons alors dans le texte grec lui-même, car c'est là que ça se dessine vraiment. Il y a ce débat de traduction fascinant autour du verset 6.
Oui, le fameux « étant en forme de Dieu ».
Voilà. Les sources du docteur Harmon insistent sur ce mot « forme ». On ne parle pas d'une vague ressemblance ou d'une aura lumineuse. Dans ce contexte, la forme décrit l'apparence extérieure d'une réalité intérieure totale.
Il est Dieu, avec toute la substance divine.
C'est ça. Mais le point de bascule se trouve dans le point de départ grammatical. Comment on traduit ça et est-ce que c'est bien qu'il soit, une concession, ou parce qu'il est, une cause?
L'analyse du docteur Harmon soutient de manière très convaincante la traduction concessive, donc bien qu'il soit en forme de Dieu.
Ça a l'air subtil, mais ça change tout le récit, non?
Ah, ça modifie entièrement la trajectoire. Utiliser bien qu'il soit installe immédiatement une forte tension narrative. Ça crée chez le lecteur antique une attente spécifique.
Une prédiction de ce qui devrait logiquement suivre.
Exactement. On s'attend à ce qu'une entité qui possède le statut suprême agisse selon les règles habituelles du pouvoir suprême. Et là, le texte brise cette attente de la manière la plus spectaculaire possible.
Pour rendre cette attente vraiment concrète pour quiconque écoute notre exploration, il est utile de se glisser dans la peau d'un citoyen romain de l'époque. Le panthéon gréco-romain débordait de dieux et d'empereurs.
Qui se prenaient eux-mêmes pour des dieux, d'ailleurs.
C'est clair. Et honnêtement, ces entités, c'était des super-héros profondément égoïstes. Prenez Zeus, Apollon ou même Néron. Leur unique priorité, c'était d'utiliser leur pouvoir pour leurs propres intérêts.
Lancer la foudre, écraser les ennemis, assouvir des vengeances personnelles.
Voilà. L'attente logique dans cette culture, c'était statut de dieu égale exploitation maximale de ce statut.
Et ce qui est fascinant ici, c'est l'utilisation par Paul d'un mot grec extrêmement rare dans le Nouveau Testament pour décrire l'attitude du Christ face à ça. Le terme, c'est harpagmos.
Harpagmos. C'est compliqué à traduire, il me semble.
Très. Les linguistes se heurtent souvent à sa complexité. On hésite entre une chose à arracher, une proie à saisir ou un avantage à exploiter.
Donc en gros, tirer profit de la situation.
C'est ça. Et le consensus qui se dégage des recherches, c'est que le Christ, possédant l'égalité parfaite avec Dieu, n'a pas considéré ce statut comme un butin à utiliser pour son propre bénéfice.
Face à l'opportunité de s'accrocher à ses privilèges cosmiques de manière égoïste, il a pris la décision inverse. La rupture avec la culture ambiante est totale, quoi.
Complètement.
Il a le bouton nucléaire cosmique, et au lieu de dire « prosternez-vous », il refuse d'appuyer dessus. Et ce refus nous amène au concept suivant, et c'est sûrement le plus dur à visualiser. Le texte déclare qu'il s'est vidé lui-même.
Le fameux concept de la kénose.
Oui, la kénose. Et là, c'est généralement ici que les contresens s'accumulent.
Parce que l'esprit humain a tendance à interpréter le verbe « se vider » de manière purement soustractive. On imagine que le Christ a dû amputer d'une partie de son essence divine.
Genre, il a posé ses pouvoirs comme on retire un manteau trop lourd.
C'est l'erreur classique. Les gens supposent qu'il est devenu une version diminuée, un demi-dieu. Mais la grammaire minutieuse de Paul interdit formellement cette interprétation.
Ah bon ? Qu'est-ce qu'elle dit exactement ?
Paul précise que le Christ s'est vidé en prenant la forme d'un serviteur. Le texte utilise le mot « doulos », un esclave, et ajoute qu'il a pris la ressemblance humaine.
En prenant, oui, la kénose n'est pas une soustraction de divinité, c'est l'addition d'une humanité soumise.
Attends, là, faut qu'on s'arrête une seconde. Parce que mathématiquement, ou même physiquement, ça n'a aucun sens.
Comment ça ?
On ne peut pas se vider de quelque chose en ajoutant autre chose. Si j'ai un verre rempli d'eau, je le vide pas en y versant du sirop par-dessus.
Je vois l'idée, oui. L'image du récipient ne fonctionne pas.
Du coup, j'ai une analogie pour éclairer ça. C'est comme si le PDG d'une immense multinationale décidait de s'humilier pour servir ses employés. Il jette pas son costume par la fenêtre pour cesser d'être PDG.
Il reste légalement le dirigeant absolu ? Exactement. La vraie humiliation opère autrement. Il garde son pouvoir de PDG, mais il enfile l'uniforme du concierge par-dessus son costume de luxe. Et il va laver les toilettes incognito.
J'aime beaucoup cette image. La force de cette analogie réside dans la notion de dissimulation volontaire. La nature divine originelle reste intacte. Il ajoute simplement une nouvelle nature.
Il dissimule sa gloire sous un vêtement de servitude.
Et son extériorité de serviteur correspondait parfaitement à la réalité intérieure de son choix de service absolu. D'ailleurs, les travaux du docteur Harmon relient ça à Ésaïe 53.
Le serviteur souffrant de l'Ancien Testament ?
Exactement. Et le fait que Paul dise qu'il a été « fait à la ressemblance des hommes », ça fait un écho retentissant avec Genèse 1. À l'origine, l'humanité a été créée à l'image de Dieu.
Oh waouh ! La boucle conceptuelle. Le Créateur accomplit l'impensable en prenant l'image de sa propre création.
C'est d'une profondeur inouïe.
C'est vertigineux. Mais si revêtir l'humanité était une étape majeure, la trajectoire indique que c'était que le début de la descente. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et disons-le franchement, extrêmement sombre.
Oui, l'obéissance ne s'arrête pas à une visite touristique.
Non. Ça a conduit le Christ vers le point le plus bas de la société antique. Le texte précise qu'il s'est humilié jusqu'à la mort, et Paul ajoute même la mort sur une croix.
Ce détail n'est pas là par hasard. Les recherches insistent lourdement sur la brutalité de la crucifixion à cette époque.
Physiquement, c'était atroce, on le sait.
L'asphyxie musculaire lente, l'agonie qui dure des jours.
Mais le docteur Harmon met en lumière un point crucial. La pire souffrance était spirituelle et sociale. Spirituellement, c'est l'absorption de la punition des péchés de l'humanité, c'est ça ?
Absolument. Le summum du pouvoir devient le récipient du summum de la condamnation. Et socialement, pour un esprit romain, c'était le déshonneur terminal. Cicéron appelait ça le châtiment extrême des esclaves.
C'est un point sur lequel il faut vraiment insister pour saisir le choc. Le docteur Armand utilise une comparaison qui retourne un peu l'estomac.
Oui, elle est très visuelle.
Dans notre monde actuel, la croix est aseptisée. On la voit en or autour du cou des célébrités. Mais dans l'Antiquité, c'était un sujet si ignoble qu'on n'en parlait même pas en société. C'était un tabou total.
Un supplice réservé aux terroristes et aux esclaves rebelles.
Voilà. Se réjouir de la croix à l'époque, ce serait l'équivalent moderne de se promener avec un collier luxueux représentant une chaise électrique ou une seringue d'injection létale.
C'est vrai que quiconque verrait ça aujourd'hui trouverait la démarche profondément morbide.
Et totalement inacceptable socialement.
L'horreur viscérale de cette image, c'est exactement ce que Paul cherchait à réveiller. Ce tabou antique donne tout son poids à l'humilité volontaire du Christ.
Adorer une divinité crucifiée pour un grec ou un romain, c'était de la démence pure.
Complètement. Il a embrassé le statut de rebut absolu de la société. Mais c'est précisément à cause de cette descente inimaginable que la réponse de Dieu est si éclatante.
La fameuse exaltation. Le texte dit « c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé ». Et là, les sources détruisent une image très courante, celle de la trajectoire en forme de V.
Oui, l'idée qu'il descend du ciel au point le plus bas, puis remonte au même endroit, comme un simple aller-retour.
Genre, il revient exactement tel qu'il était parti. Mais le docteur Armand propose une autre image.
Celle d'une coche, le symbole de validation.
La petite encoche qu'on fait sur un bout de papier pour dire « c'est bon ».
C'est ça. Le point final de la trajectoire est plus élevé que le point de départ. Comme un plongeur qui saute, touche le fond, mais ne remonte pas seul.
Il ramène quelque chose de nouveau.
Il ramène une humanité glorifiée, une chair humaine qui a vaincu la mort. L'issue est cosmiquement plus riche que le point d'origine. C'est pour ça qu'il reçoit le nom au-dessus de tout nom.
À ce fil conducteur du nom, c'est un traçage biblique fascinant. Les recherches montrent que ça commence dès la Genèse, avec la tour de Babel.
Où l'humanité veut se faire un nom par elle-même.
Exactement. Par son propre orgueil. Et la conséquence, c'est la dispersion et le chaos. Ensuite, Dieu s'adresse à Abraham et lui dit « C'est moi qui rendrai ton nom grand ». L'initiative divine contre l'effort humain.
Et cette trame traverse les siècles jusqu'à la Pentecôte. C'est l'inversion exacte de Babel. L'esprit rassemble des populations de toutes langues pour adorer le grand nom de Jésus.
Jusqu'au livre de l'Apocalypse, où les nations sont définitivement réunies par ce nom. C'est intellectuellement vertigineux de voir un seul mot lié des millénaires.
Mais si l'on relie ça au contexte global, on voit que la manœuvre de Paul en utilisant ce nom relève du pur génie tactique pour prouver que Jésus est l'égal de Dieu.
La mathématique divine. Comment il fait ça?
Il tisse une citation directe du chapitre 45 d'Ésaïe. Dans Ésaïe, Yahvé jure que devant lui seul, tout genou devra fléchir.
Uniquement devant le Créateur?
Oui. Et Paul prend cette prérogative incontestable et l'applique sans hésitation au Christ.
Donc l'équation est limpide. Si seul Yahvé reçoit cette adoration universelle et que maintenant Jésus la reçoit, alors Jésus est Yahvé. Le syllogisme est parfait.
Il est irréfutable, mais le docteur Armand précise de manière assez solennelle que tout genou fléchira, oui, mais pas toujours dans la joie.
Ah oui, c'est pas forcément une célébration unanime.
Pour ceux qui ont placé leur confiance en lui, ce sera la reconnaissance joyeuse d'un roi, mais pour ses ennemis, ce sera extorqué par la terreur pure face au jugement. L'adoration sera volontaire ou alors ce serait une capitulation forcée.
Alors qu'est-ce que tout ça veut dire concrètement? On vient de nager dans de la haute théologie pendant un bon moment.
La kénose, l'exaltation en forme de coche.
Voilà. Mais le but de Paul n'est pas de donner de l'info intellectuelle pour réussir un examen de philo. Il voulait provoquer un changement de vie pratique, pirater le logiciel de décision de ses lecteurs.
La grande idée, c'est que le Christ s'est abaissé pour que Dieu l'élève. Et l'application, c'est de transformer ça en appel à l'action. Contrairement à la culture antique ou même à notre culture moderne, qui récompense l'autopromotion, on est appelé à faire l'inverse.
Analyser froidement nos privilèges et notre pouvoir, et décider de les vider pour servir les autres.
Et le docteur Armand fait une observation frappante là-dessus. Il souligne que quand la vie terrestre devient trop confortable, notre désir du retour du Christ ou de l'instauration de sa justice a tendance à s'évaporer.
Le confort matériel comme anesthésion spirituelle. On s'installe, on profite et l'urgence d'un sauveur disparaît.
Exactement. Le défi est donc de raviver cette anticipation et surtout d'identifier un acte spécifique de service sacrificiel à accomplir. Prendre son temps ou son argent, non pas pour soi, mais pour quelqu'un qui ne peut rien offrir en retour. C'est de l'imitation de la kénose.
Mais attention, il faut rappeler un truc crucial. Essayer d'imiter ça juste par discipline morale personnelle, ça mène direct à l'épuisement.
Ou à l'orgueil spirituel, oui. C'est là qu'intervient l'union avec le Christ. C'est pas juste un idéal à viser, c'est une source d'énergie surnaturelle pour vivre cette redéfinition du pouvoir.
Ce qui nous amène à une pensée finale, un défi mental pour quiconque écoute ceci. Si la nature ultime du pouvoir divin se prouve par la kénose, se vider de ses privilèges et non pas par la domination,
dans quelle mesure cela devrait-il déconstruire notre définition du succès ?
Voilà. Il suffit de penser au manuel de leadership qui n'enseigne que l'art de s'imposer, ou aux algorithmes de nos réseaux sociaux qui ne récompensent que la vaine gloire et l'autopromotion permanente.
La question se pose vraiment.
Si le point culminant de l'histoire de l'univers est un homme dépouillé de tout sur une croix romaine, il est grand temps de se demander si l'échelle du succès que tout le monde s'épuise à grimper n'est pas tout simplement appuyée contre le mauvais mur.
C'est une pensée fondamentale à méditer pour redéfinir le pouvoir.
Exactement. Merci d'avoir plongé dans cette exploration avec nous.